exploration, gagner en XP dans le JV.
Il y a des passions dans la vie qui nous arrivent tardivement. Pour moi, cela a été les jeux de combat. Je profitais déjà plus jeune de titres très accessibles comme Soul Calibur dont je vous ai parlé la semaine dernière. Les jeux de bagarre qui m'attiraient étaient loin d'être aussi intéressants qu'un Street Fighter ou un Tekken. En effet, ils se voulaient tellement abordables qu'au final, on ne les achetait pas vraiment parce qu'ils appartenaient au genre. Et pour cause, ce n'était pas leur argument de vente, puisqu'il s'agissait de produits dérivés d'un univers que j'apprécie au plus haut point, Dragon Ball Z. Alors cette chronique ne traitera pas de ces jeux-là. Je pense que je garderai ça pour une prochaine fois. Cela dit, ce goût pour le jeu de baston, le vrai, celui où chaque interaction compte, celui où il faut être minutieux dans ses combinaisons de touches, celui où prendre un personnage n'est pas un choix anodin, il ne m'est arrivé que très tardivement, en 2018, toujours à cause d'un jeu DBZ du nom de Fighters. Ce jeu, à mon avis, c'est tout simplement le meilleur titre Dragon Ball si vous êtes là pour la bagarre, d'autant que la direction artistique est d'une fidélité folle au manga d'Akira Toriyama. L'œuvre propose des affrontements en 2D, en gros on peut se déplacer à gauche ou à droite et sauter, cependant il dispose d'une patte graphique en 3D, donc les personnages et le décor possèdent une certaine profondeur. Mais les textures, c'est-à-dire la peau et les vêtements des personnages, sont dessinées à la main afin d'apporter un côté cartoon, ou dans ce cas-là, manga. Cette direction artistique se Ce n'est pas nouveau dans le paysage vidéoludique, ni même pour une production Dragon Ball. Pourtant, jamais un jeu DBZ n'avait été aussi fidèle au trait de son auteur et à la réalisation de son adaptation animée. A l'époque, on disait du titre qu'il était le jeu Dragon Ball ultime. Et pour cause, l'éditeur, pour Dynamco, n'avait pas fait appel à ses studios de développement habituels. Pour cette œuvre, ils ont demandé à Arc System Works, des parrains du jeu de combat, mais surtout des spécialistes pour donner un rendu de série d'animation japonaise à leur prod. C'est de cette manière que j'ai découvert Arxis, car oui, on se connaît bien maintenant, ainsi que leurs deux licences qui sont presque rivales, Blaze Blue et celle qui m'a peut-être changé à jamais, Guilty Gear. Pas mal cette intro, hein. Mais vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai utilisé cette musique, mais une pléthore d'autres morceaux issus des différents jeux de la série auraient pu le faire. Regardez, exemple, celle qui m'a changé à jamais, Guilty Gear. Allez, allez, une autre, celle qui m'a changé à jamais, Guilty Gear. Bon, je pense que vous avez compris. Bref, Guilty Gear, donc, une franchise presque anonyme par chez nous et dont il y a énormément à dire. Mais comme c'est une œuvre qui me tient à cœur, vous n'aurez pas le droit à une, mais bien deux chroniques autour de la saga. D'autant que si la semaine précédente, beaucoup ne devaient pas connaître la série Soul, la licence Guilty Gear, cela doit être encore pire. Pour cause, c'est une production typiquement japonaise. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'en parle à l'antenne, puisque j'avais eu l'occasion d'aborder une de ces itérations dans le dernier Double Stick. Ainsi, aujourd'hui, je ne ferai que vous présenter en surface cette licence très particulière. Je me concentrerai la semaine prochaine sur le titre le plus récent afin de vous fournir une analyse plus poussée. Le jeu, très inspiré par les séries d'animation Nippon, transpire la culture de son concepteur, Daisuke Ishiwatari. Alors, Daisuke, c'est véritablement le papa de Guilty, car il en est le réalisateur, le scénariste, l'illustrateur, le designer et enfin le compositeur. Et ce n'est pas une vanne, si j'ai déjà parlé de créateurs et de créatrices qui occupaient aussi ces rôles-là sur leur jeu, les Guilty Gear sont des productions bien plus ambitieuses et bien plus techniques par leur statut de jeu de combat. Ainsi, ce grand malade du travail n'hésitait pas à raconter que pour le développement d'un des premiers titres, il avait passé un an et demi au studio sans rentrer chez lui. Quelque chose que personne ne devrait faire dans sa vie, si vous voulez mon avis, mais qu'il ne semble pas imposer à ses collaborateurs et collaboratrices, et j'ai envie de dire, heureusement. Bon, revenons à Guilty Gear. La saga débute le 14 mai 1998 et a donc fêté ses 25 ans il y a quelques jours. Sans trop entrer dans les détails, l'œuvre présente la vision d'un jeu de combat à la sauce série d'animation japonaise selon Daisuke Ishiwatari. Alors, les animés où ça se bastonne, je ne sais pas si autour de la table il y a des consommateurs et des consommatrices forcenés, mais on va pas se mentir, c'est tout un délire. Des combats intenses plutôt longs, des attaques variées, mais surtout, cette idée de dynamisme dans les affrontements, c'est quelque chose que Daisuke a retenu de ses nombreux visionnages pour l'incorporer dans Guilty Gear, ou comme le dirait l'annonceur du jeu,
Guilty Gear.
Et Monsieur Ishiwatari, qu'on se le dise, c'est du bon boulot. On retient surtout du premier épisode deux grosses mécaniques qui ont marqué la série et le genre du jeu de combat tout entier. Le premier, les instant kills, ou meurtre instantané, rien que ça, des attaques qui tuent d'un seul coup votre adversaire dans un déluge d'effets impressionnants. Mais on se souvient surtout du second, le Dragon Install, une technique rendant notre personnage plus puissant et plus rapide. Cette sorte de transformation, très inspirée du Super Saiyan de Dragon Ball Z, encore lui, a été reprise dans d'autres jeux depuis et a été raccourcie en juste install. Avec les itérations, la mise en scène des installs est devenue complètement folle, puisque désormais, lorsque le héros se transforme, les joueurs et joueuses savent que ça va chauffer pour leur cul en entendant ceci. Pour ce qui est maintenant de l'histoire, toujours écrite par Daisuke Ishiwatari, je ne vais pas vous mentir, c'est un joyeux bordel, mais qui a tout de même une certaine subtilité. Pour vous donner le ton, je vais au moins vous expliquer le nom du jeu, Guilty Gear. Le postulat de base est simple, le bug de l'an 2000 a eu lieu, et ainsi tous les appareils électroniques ne fonctionnent plus. Heureusement, un groupe d'individus découvre une nouvelle forme d'énergie, la magie. Bon, jusque là ça va, en gros la magie devient une science et permet des innovations. En 2010, trois scientifiques et amis débutent un projet qui a pour but de créer les Gears, des êtres humains immortels modifiés à l'aide de la magie. Ces trois individus se prénomment Frédéric Bulsara, Arya Hale et Asuka Erkrutz. Frédéric et Arya tombent amoureux l'un de l'autre et vont vivre une idylle jusqu'au jour où Arya souffrira d'une maladie inconnue. Asuka va tenter de persuader la jeune femme de se cryogéniser afin de pouvoir être soignée une fois leur recherche terminée. Cependant, Arya ne souhaite pas revenir à la vie dans un monde où Frédéric est vieux, voire pire, décédé. Asuka lui promet alors de transformer Frédéric à l'aide de leurs recherches afin de le rendre immortel. Arya, convaincue, décide finalement de suivre le conseil de son ami, tandis que ce dernier tient sa parole en faisant de Frédéric le prototype des Gears. D'ailleurs, l'expérience tourne mal et notre protagoniste se transforme en monstre et détruit le labo. Il reprend ses esprits des mois plus tard, au milieu des décombres, alors que Arya et Asuka sont portés disparus. Notre héros, dévasté, se construit un bandeau visant à contenir ses pouvoirs et change d'identité en adoptant le nom de Sol. Pendant son coma, le gouvernement américain a dévoilé son vrai visage et s'est servi des recherches de nos trois amis pour créer des armes biologiques. Au même moment, un homme mystérieux apparaît accompagné de Justice, le tout premier Gear complètement fonctionnel et qui a la capacité de contrôler tous les autres. Cependant, Justice va se rebeller contre son inventeur et va détruire l'entièreté du Japon. Sol va de son côté démolir les usines de Gear des autorités et va être surnommé The Bad Guy. Il obtient ainsi le qualificatif de...
Soul Bad Guy.
Cela dit, en tant qu'un des créateurs de Gear et étant désormais un des leurs, il se sent coupable, guilty en anglais, et est donc le Guilty Gear. Bon, là, j'ai réussi à vous expliquer seulement qui était le personnage principal, en sachant que dans le premier titre, il y a 10 persos jouables, je ne vais pas m'étaler, d'autant que ce n'était techniquement qu'un prologue. En effet, le premier jeu se passe non pas en 2010, mais bien en 2180. Les humains ont fait la guerre contre les Gears et la géopolitique du monde est un bordel sans nom. Je vous laisse donc réaliser vos propres recherches si ça vous intéresse, et pour que je puisse m'attarder moi sur un autre point très important, Daisuke et la musique. Comme je l'ai dit, Daisuke Ishiwatari est aussi le compositeur, et c'est un grand fan de musique. En tant que créateur de la série, il ne va pas pouvoir s'empêcher de glisser des références à ses groupes, albums ou tout simplement morceaux favoris. Commençons par l'évidence, Sol Bad Guy, notre protagoniste. Le Bad Guy ici, il ne vient pas de nulle part, puisqu'il est directement issu de ce morceau. Mr. Bad Guy de Freddie Mercury. D'ailleurs, c'est quoi le vrai nom de Sol déjà ? Frédéric, ou pour faire court, Freddie. Et est-ce que quelqu'un sait autour de la table quelle était la véritable identité de Freddie Mercury ?
Ah, je sais plus, tiens.
La véritable identité ?
Ouais.
Batman.
Son vrai nom, tu veux dire ?
Ouais, son vrai nom, ouais.
Oh, je l'ai plus en tête, ouais.
Aucune idée.
Farrokh Bulsara. Bulsara, qui est aussi le nom de famille de Frédéric. Et c'est pas fini en termes de référence. Dans tous les jeux de combat, chaque combattant et combattante possède leur propre thème musical. Voici celui de Sol. Donc, le titre de ce thème, c'est Keep Yourself Alive, chanson issue du premier album de Queen en 1973. Et ce n'est pas tout, puisque dans un des jeux, il est dit que Sol Bad Guy a bidouillé une sorte de baladeur MP3 sur lequel il écoute en boucle l'album Sheer Heart Attack de Queen, un album sur lequel on peut entendre le morceau Stone Cold Crazy qui se termine par ces phrases. Ou en français, si je ne peux pas aller au paradis, me laisseront-ils aller en enfer ? Le paradis ou l'enfer, Heaven or Hell, un choix que l'on peut entendre au début de chaque combat des jeux Guilty Gear, suivi d'un bon vieux Let's Rock.
Heaven or Hell, Duel, One, Let's Rock !
Je crois que vous l'aurez deviné, le groupe favori de Daisuke Iwatari est Queen. Alors rassurez-vous, il ne fait pas référence qu'à Queen ou Freddie Mercury, puisqu'il existe carrément un personnage qui se nomme Abba. Alors avec un seul B, mais la référence est claire comme de l'eau de roche. Aussi, il existe un autre combattant qui s'appelle Slayer, et là c'est vraiment orthographié comme le nom du groupe de thrash metal. Dans le même style, il existe Testament, faisant directement référence au groupe de thrash metal éponyme et qui possède une capacité du nom de Master of Puppets en référence au morceau de Metallica. À côté, on a d'autres références comme le personnage d'Axel Lowe qui rend hommage par son look et à son nom à Axel Rose, le chanteur de Guns N' Roses. Son thème, quant à lui, renvoie au titre You're Crazy du groupe américain. Voici le fameux thème. Et voici You're Crazy. Un autre personnage se prénomme Eddie en référence à la mascotte d'Iron Maiden et son instant kill dans le premier jeu se nomme Fear of the Dark, nom d'un album et d'un morceau du même groupe. Enfin, comme autre référence que j'avais envie de vous partager, Kai Kisuke, le rival de Sol, possède une capacité dénommée Ride the Lightning, en référence encore à Metallica. Bon, vous l'aurez remarqué, tout ça c'est très rock, hein. Un peu comme la bande originale des jeux Guilty Gear qui était elle aussi très rock et dont je vous propose d'écouter une musique que mes collègues vont sélectionner en jouant à un petit jeu. Je vais vous poser différentes questions sur le style de morceau que vous voulez écouter et après on écoutera ce morceau.
Trop cool.
Voilà, donc déjà, est-ce que vous voulez une musique, enfin du coup un titre avec des paroles ou pas ?
Paroles.
Paroles ?
Paroles.
Allez, paroles.
Alors du coup, les titres avec des paroles sont interprétés par Naoki Hashimoto, qui était du coup le chanteur du groupe de métal japonais Outrage. Alors, musique rapide ou pas ? Sachant que rapide, pour moi, c'est en dessous. Enfin, une musique lente, pour moi, c'est en dessous des 100 BPM. C'est bêtement par minute.
Il va nous mettre du speed metal.
En vrai, rapide, hein.
Allez, rapide, là, tu nous as chauffé avec ouais. Maiden et tout. Là.
Ok, alors, maintenant, plus dur. Je sais plus quand j'ai écrit ça. Alors... Vous préférez est-ce que vous préférez faire attendre dans une file d'attente ou attendre dans un ascenseur ?
Un ascenseur, non ?
Ouais, allez,
c'est moins ascenseur. Pénible, un ascenseur.
Un ascenseur.
Il y a une petite musique, ouais. Au moins.
Ok, alors là, ça va être très drôle. Parce que du coup, on va écouter Sky Should Be High, qui est le titre, vous n'allez pas me croire, c'est une chanson, mais c'est le morceau des temps de chargement du jeu qui dure globalement 4 ou 5 secondes. Donc il y a une intro très très forte qu'on entend en boucle. Par contre, les paroles, on ne les entend jamais. Et c'est très rare d'entendre les paroles. Et le titre est excellent, mais on n'entend jamais les paroles en jeu et c'est très triste. Mais du coup, on va écouter Sky Should Be High.
Single path, no one knows tomorrow.